pour commencer, on va vous parler des fantômes de la déconnexion. Et comme nous ne sommes pas de purs esprits, parce que nous savons beau être des chercheurs, nous avons aussi des corps, des vies intimes, subjectives. Ça commence par une expérience personnelle que j'ai eue il n'y a pas longtemps, une décision que j'ai prise qui était de quitter Facebook. Alors, chose assez tonitruante qui m'a valu pas mal de commentaires négatifs de la part de mes amis ou des réactions très surprises de gens qui m'ont demandé comment j'allais garder une vie sociale, est-ce que je n'avais pas peur de m'isoler ou de finir dans une grotte. Eh bien, finalement, tout cela est très décevant puisque rien de tout cela ne s'est produit. Finalement, tout va bien. C'est une expérience que j'ai documentée sur Medium. On va y revenir, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que j'ai essayé d'anticiper sur ce départ qui était quand même pas simple, parce que ça voulait quand même dire se séparer d'un ensemble de services, d'un ensemble de news et même d'un ensemble de possibilités qui sont proposées par la plateforme, si on considère d'ailleurs que Facebook est une plateforme. Et puis suite à l'article sur Medium, j'ai eu pas mal de retours, je dirais pas négatifs, mais des critiques un peu virulentes de gens qui m'ont dit « Mais enfin, Pia, quelle idée de vouloir quitter Facebook ? C'est un geste vraiment très théâtral, mais qui au fond n'a pas vraiment de raison d'être. Puisqu'au fond, nous avons tous une responsabilité individuelle et qu'il suffit d'avoir un comportement très responsable avec ces outils, et puis ça suffit bien. » Et ça m'a beaucoup dérangée parce que ça va dans le sens d'une définition de l'outil technique ou même de la technologie comme étant neutre, c'est-à-dire comme n'ayant pas de sens ou comme n'induisant pas de comportement, ce qui est une notion à laquelle je m'oppose fermement. Et il me semble d'ailleurs qu'Anthony s'y oppose aussi, puisqu'il a quand même écrit sur la pensée des programmes. Donc,
Au-delà de ces critiques, et je te rejoins, je me demande si en fait, c'est pas faux. Est-ce que tu as vraiment quitté Facebook, vu que tu es toujours Pia inscrite sur Instagram faisant partie de la grande galaxie Facebook, dont le réseau social n'est qu'un aspect, certes important, il y a aussi WhatsApp, il y a d'autres choses, Messenger. Et donc, est-ce que tu n'es pas, malgré toi, rattrapé par ces fantômes? Tes données sont encore conservées chez eux, encore un paquet de temps, c'est pas exactement. Ton compte donc est encore utilisé, les boutons like te tracent même si tu ne cliques pas dessus. Donc, finalement, est-ce que toute déconnexion n'est pas forcément illusoire et partielle? Est-ce que voilà, ton exemple n'en est pas le paradigme?
Je pense que oui, surtout que autant j'ai eu une certaine facilité à quitter Facebook, quand même, il faut bien le dire. Je suis très dépendante d'Instagram pour des raisons personnelles. Je suis assez fan de tatouages. Donc je suis beaucoup de comptes de tatouages et je suis liée à Instagram et j'arrive pas à en partir. Et donc en étant liée à Instagram, je suis, comme tu l'as très bien dit, liée à Facebook.
Donc cette question d'attention, enfin, en fait, on voulait s'y intéresser, est-ce qu'elle est aujourd'hui assez centrale dans les recherches? Par exemple, on y reviendra, mais le chercheur en littérature Yves Citon a écrit sur ce qu'il appelle une écologie de l'attention, donc un autre rapport à l'attention que ces mass médias et ces médias sociaux. Et donc, un des enjeux, ce serait de retrouver une attention plus humaine avec cet article. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots. « Oh, I get my attention back » du chercheur Craig Mudd, américain.
C'est un article qui est assez intéressant parce qu'il explique en fait comment on se retrouve piégé par un ensemble de services et de plateformes qui se disputent au fond notre attention, alors qu'il était assez inoffensif au début. Craig Mudd rappelle que finalement, au début, Facebook, c'est un mur, mais il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas d'ultra-connexion entre les groupes, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'augmentation, si on veut, du service. Donc, c'est assez inoffensif. Et petit à petit, ces plateformes, alors déjà en enrichissant leurs propres services, et qui plus est, en étant connectées entre elles, finissent par devenir de plus en plus chronophages, de plus en plus attrayantes, et surtout finissent par centraliser une somme de services. Là où Craig Mudd est aussi intéressant, c'est que il montre bien à quel point il y a un aspect contaminant de ces différentes plateformes. Il parle par exemple des mèmes comme d'une maladie. Et il explique aussi comment l'attention, elle est liée à un circuit physique de la stimulation et de la récompense. Et ça m'intéresse pas mal parce que moi, je fais des recherches qui sont souvent orientées autour de la question des corps et pas seulement de la technologie. Et je pense notamment à ce que dit Paul Preciado sur l'ère pharmaco-pornographique dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, et là je résume largement, je vais tailler son propos à la serpe, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas faire une critique des technologies sans les penser aussi comme des biotechnologies, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs qui affectent nos corps. Et donc, tous ces sites et services, enfin, je ne sais pas vraiment, enfin, je ne suis pas sûre de savoir comment les appeler, parce que le fait même de les nommer plateformes est problématique, mais on va dire ces plateformes pour aller vite. Tous ces services-là nous attachent à eux, en fait, par un ensemble de stimuli et de stimulations-réponses. Et c'est ce que décrit Craig Mott, notamment, en parlant du dopamine shot, donc le shot de dopamine. L'idée que finalement, on n'est pas dans un service qui est uniquement technologique, mais qui est bien lié à une réponse du corps, et là, dans ce cas-là, une réponse hormonale, si on veut.
Alors, je vais quand même revenir aux machines, parce qu'on parle de déconnexion un peu rapidement, mais quel est son contraire? Enfin, pourquoi, en fait? Connexion, hyperconnexion, d'où ça vient? Effectivement, c'est aussi quand même, il faut le dire, une posture assez stéréotypée, voire un marronnier des étudiants, voire même de nous-mêmes, de dire qu'on serait dans une époque hyperconnectée.
Je déteste
ce mot.
Qu'on
n'a plus le temps pour rien. Donc voilà, en fait, on veut pas aller là-dedans et on veut essayer de voir ce qui se cache derrière ce terme un peu fourre-tout. À quoi on est connecté, quels usages. Et c'est peut-être là qu'on est certes chercheur, mais aussi designer dans cette histoire de podcast. Et donc, on observe ce qui existe, là, les usages ou des comportements. Et il y a notamment un phénomène en expansion depuis plusieurs années, le unplugged tourism, le tourisme de la déconnexion. Peut-être, Pia, tu peux pour nos auditeurs rappeler ce que c'est, sachant qu'on mettra aussi les liens sur la page du podcast.
Ah oui, si vous voulez vous-même faire du unplugged tourism, ça consiste à payer très cher pour qu'on vous supprime la connexion Wi-Fi, dans certains cas les plus extrêmes, la connexion au téléphone. Donc c'est vraiment cette espèce d'idéal de retour à la nature. Je rentre dans ma cabane, bon alors au Canada ou non, mais et en gros je regoute aux joies de la nature, les petits oiseaux qui chantent, mais tout ça c'est vraiment lié à au service de la déconnexion. En fait, vous payez pour qu'on vous supprime, on vous supprime des services.
Avec des chambres qui sont des cages de Faraday qui coupent toutes les ondes possibles.
Enfin, ça, je ne sais pas si ça existe. C'est peut-être. Sinon, on produira le service et on vous fera payer pour. Mais.
Et donc, il y avait aussi.
J'interviens. Il y a des peintures pour le faire.
Des peintures. Tu peux peindre ta chambre pour que ça fasse cage de Faraday. Ouais. D'accord.
Alors, la connexion, c'est aussi lié. Enfin. C'était peut-être, c'est une question qu'on peut poser, à un ensemble d'objets, de machines, de bruits, le bruit du modem 56K par exemple, qui signifiait de façon auditive de rejoindre un réseau. Alors, il ne s'agit pas de prendre une posture tournée vers le passé, mais cette hyperconnexion, en fait, elle est aussi invisible de façon majoritaire, et peut-être que c'est là que le préfixe hyper prend tout son sens. Et donc, dans nos recherches, on voudrait aussi finalement avoir une approche historique, voire archéologique, d'essayer de voir ce qui s'est fait dans le passé, ou même ce qui nous est advenu, ce qui advient à nos corps et à nos esprits, sans qu'on ait eu le temps de le penser ou d'y réfléchir. Donc cette posture critique et historique, elle est hyper importante.
Je voudrais juste dire que le bruit du modem 56K me manque. Je suis une vraie média archéologiste. J'adorais ce bruit. Non, j'adorais ce bruit. Et en plus, ce qui était génial avec ce son, c'est qu'en fait, ça faisait exister un entre-deux, entre un état qui était être connecté et ne pas l'être. Et du coup, ça faisait vraiment exister, je trouve, des zones. Tu savais à quel moment tu étais connecté, tu savais à quel moment tu ne l'étais pas. Et c'était ce son qui était vraiment rituel, qui faisait exister ça. Et je dirais pas qu'on est hyper connecté aujourd'hui, mais on est plutôt constamment connecté. Alors c'est un mot qui est peut-être moins sexy, mais il me semble plus précis en fait dans la description de nos états actuels en fait.
On s'en rend même plus compte en fait, la connexion est devenue un milieu comme des poissons à qui on demanderait qu'est-ce qu'est l'eau qui pourrait pas répondre. Et c'est lié aux ondes, à ces technologies qu'on peut appeler invisibles ou seamless en français sans friction. Il y a plus rien qui marque une différence d'état. Et ça se voit aussi dans l'idéal des objets technologiques aujourd'hui, qui en tout cas dans les publicités sont la plupart du temps sans câble, y compris pour des objets qui en ont vraiment besoin comme des box internet. Et le paradoxe, c'est que moins les ordinateurs ont de connectique, plus on a besoin de câbles et de connectique, notamment le retour des dongles avec la marque à la pomme. Donc du coup, cette technologie ubiquitaire engendre peut-être des nouvelles peurs ou des nouvelles phobies, parce que quand on ne sait pas ce qu'on voit, forcément ça fait marcher l'imagination. Et un exemple que je voulais donner, parce qu'on va parler de design et donc d'objets, c'était ce boîtier Wi-Fi Cybox, un boîtier de boîtier, qui est censé couper les ondes négatives des réseaux Wi-Fi pour protéger nos enfants. Donc il y a une sorte de panique morale qui s'empare de cette connexion invisible.
Bon, après, c'est vrai que c'est un sujet assez polémique. Je ne sais plus comment on les appelle, les hypersensibles aux ondes. Je ne sais pas si on va aller nécessairement sur ce terrain-là, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui un geste de design à l'endroit de la peur des ondes. C'est-à-dire qu'on fabrique et on façonne des boîtes qui viennent, d'une certaine manière, recouvrir nos boîtiers existants. De la même manière que nos câbles se redoublaient les uns les autres. Ça, je pense qu'il y a un lien qu'on explorera, je pense, aussi plus tard dans l'émission, mais c'est tout le lien à l'habitat, en fait. Un deuxième marronnier qui va avec la déconnexion, c'est la dématérialisation. Cette idée que d'un seul coup, tout serait dans le cloud, que parce qu'on a des technologies, on n'aurait plus de matérialité. En fait, on se rend bien compte, avec l'exemple que tu donnais, Anthony, qu'on multiplie de nouvelles manières de faire du matériel plutôt que de supprimer cette matérialité.